Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour votre émission Le bâtiment optimisé, opus numéro 4. On est ravis d'être avec vous. On va vous parler d'un sujet qui fait grincer un peu, qui pose question, mais comme toutes les lois, les décrets posent question, on va essayer pour vous, mesdames et messieurs, de décrypter l'actualité. Le sujet, tenez-vous bien, le décret BACS. On va venir dans un instant vous expliquer ce que c'est que le BACS et comment surtout l'intégrer dans une stratégie de réponse, notamment dans le cadre du décret tertiaire. On a beaucoup parlé sur les ondes de Radio Imo, vous le savez. Et donc du coup, pour ce numéro d'avril et cette quatrième édition du bâtiment optimisé, on va tâcher de circonscrire cette information et de vous donner les clés de lisibilité. Pour en parler, comme d'habitude, on a réuni des professionnels, des experts autour du plateau pour échanger autour, bien évidemment, de ce fameux décret BACS, mais plus largement du décret tertiaire et de la nécessaire impérieuse, cette nécessité impérieuse, pardon, de rénover nos bâtiments. Pour en parler, Mathieu Gélit avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Directeur métier chez Axéo Énergie.
C'est ça.
Voilà, donc un peu le sachant qui va nous guider un petit peu dans les méandres de ce fameux décret. De grands professionnels de l'immobilier et de la fabrique de la ville. Il est directeur Real Estate Advisory de Colliers France. C'est Michel Danis qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour Michel, comment ça va ?
Très bien.
Je suis ravi de vous accueillir. Je crois que c'est la première fois que vous venez sur mon plateau.
Très heureux de venir aussi, c'est la première fois. Voilà.
Vous êtes le bienvenu, merci encore une fois. On le présente plus, il a été le fondateur de Smart Building Alliance. Il est à présent fondateur de Data Governance Alliance. Et Emmanuel François, bien sûr.
Bonjour.
Comment ça va Emmanuel ?
Très bien, très heureux d'être ici pour un sujet hautement d'actualité.
Alors, bien évidemment, on a bien lu vos articles et vos tribunes, justement pour en parler. Et là, du coup, on va essayer de décrypter avec beaucoup d'orientations concrètes. Résolument optimiste, parce qu'on n'a pas le choix, il faut être résolument optimiste face à un marché qui est quand même un petit peu chahuté, et on va essayer de vous donner, à vous toutes et à vous tous, les clés de lisibilité. Voilà, c'est parti pour l'émission.
Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
Alors, le sujet du mois, le décret BACS. Est-ce que, Mathieu, on va faire un peu de pédagogie. Quel est le décret BACS, qu'est-ce que ça veut dire BACS, et en quoi ça va avoir une incidence majeur dans le cadre du décret tertiaire.
Alors effectivement, le décret BACS qui date maintenant de 2020, donc qui veut dire Building, Automation, Contrôle et Système. Donc concrètement, c'est la mise en place de systèmes automatiques et de contrôle dans les bâtiments, donc visant à améliorer la performance énergétique et plus globalement la gestion finalement dans les bâtiments, pour donc optimiser tout ça, surtout en fonction des usages.
Comment ça va se passer en pratique ? Qu'est-ce que, et on va en parler avec les professionnels, qu'est-ce que ça va changer ? Notamment, on parle en raisonnement de la donnée, de qui contrôle, comment on contrôle. Et c'est vrai que les professionnels eux-mêmes, qui sont des opérationnels, qui ont une vision tangible de leurs actifs, très franchement, Mathieu, ben vous le savez, hein, ils ne savent pas vraiment de quoi on parle. Hein.
Alors, c'est vrai que c'est pas évident, surtout qu'il existe beaucoup de systèmes différents, en plus, qui permettent de faire du contrôle, de la gestion de données. Concrètement, ça va passer par l'installation de systèmes donc dans les bâtiments, via capteurs et autres, qui vont donc permettre de remonter de la donnée, de la collecter et de l'optimiser. Donc tout ça, ça va se passer par l'installation de logiciels et autres.
Qui va collecter la donnée ?
Alors qui va la collecter ? La collecter, ça dépendra. Pour certains gestionnaires de bâtiments, c'est eux-mêmes qui vont piloter ça. Parfois, ce sera également les mainteneurs qui sont en place dans les bâtiments. Donc c'est eux, en fait, qui vont la collecter et qui vont surtout viser à l'exploiter pour, encore une fois, optimiser au mieux la gestion des bâtiments.
L'objectif de ce décret, c'est d'affiner cette donnée pour avoir des instruments extrêmement précis, voire même viser l'exhaustivité pour finalement... Non, on va en parler. Parce que c'est quoi ? L'origine du dispositif, c'est ?
Alors, l'origine du dispositif, c'est vraiment de pouvoir effectivement mieux exploiter les bâtiments. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'équipements, notamment donc sur les bâtiments tertiaires, beaucoup de systèmes CVC, mais pas que, hein, c'est également de l'éclairage et autres. Mmh. Et finalement, piloter correctement tous ces équipements, on va dire manuellement, via l'homme, c'est très compliqué. Donc, mettre en place tous ces systèmes automatiques, ça va permettre de beaucoup mieux piloter et, encore une fois, de mieux adapter la gestion du bâtiment en fonction de l'usage qu'on en fait.
Alors, si j'ai une bêtise, vous me rectifiez, est-ce que ça veut dire finalement qu'on va piloter l'immeuble en mode BIM ?
Non, pas tout à fait, parce que le...
Alors, le BIM, c'est que j'ai un cube dans lequel j'implémente toutes les techniques. Non, mais c'est vrai, je peux poser
cette question. Oui, mais c'est plus de la... Alors, le BIM, c'est plus de la conception, c'est mais plus... Enfin, moi, je maîtrise moins le sujet,
BIM,
si je reconnais.
BIM avant conception, voilà. BIM avant conception, oui, parce que c'est un Building Information Management ou modèle, qui peut aussi, quelque part, être la matrice qui peut permettre de piloter ces données. Mais c'est une obligation, ce décret.
Alors, le décret, effectivement, c'est une obligation, effectivement, donc pour avec des échéances différentes. Alors aujourd'hui, pour tout ce qui concerne les bâtiments neufs, c'est déjà une obligation. Donc pour tous les bâtiments qui ont des puissances, on va dire, installées de chauffage supérieures à 70 kW. Et pour tout ce qui est les bâtiments existants, on a des échéances à horizon 1er janvier 2025, pour tous les bâtiments qui ont des puissances supérieures à 290 kW. Et pour le 1er janvier 2027, pour tous les bâtiments qui ont des puissances supérieures à 70 kW. Après, via ce décret, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction directe qui est prévue quant à, finalement, le respect de ce décret. Par contre, indirectement, ce qui est visé, et notamment par rapport au décret tertiaire, c'est potentiellement la non-atteinte, finalement, des objectifs fixés dans le cadre du décret tertiaire si on ne met pas en place ces différents systèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus une sanction, on va dire, transverse via une autre réglementation qui est présente.
Michel Danis, quand on... Bien évidemment, ça ne vous a pas échappé. Comment on l'interprète de votre point de vue, vous ? Comment vous allez le concevoir, justement, vis-à-vis de vos clients, de la charge que vous avez ?
Nous, on va avoir plusieurs types de clients, et donc en fonction des clients, on aura une appréciation différente. Si je commence par les clients qui peuvent être les locataires, et ça rejoint l'absence de sanction et la sanction quand même, le locataire, lui, va se poser la question, est-ce que le bâtiment est conforme ? C'est-à-dire qu'il ne comprend pas très bien de quoi on parle.
Tout à fait.
C'est ce que vous disiez. Il se dit juste, j'ai entendu parler du décret tertiaire, est-ce que l'immeuble est conforme au décret ? Sans qu'il n'ait aucune notion de ce qu'il y a dedans. Mais il dit, est-ce que c'est conforme ? Donc du coup, c'est une première sanction pour les investisseurs. S'ils ne sont pas conformes au décret tertiaire, au bout d'un moment, les locataires ne viendront pas. Voilà. Pour les locataires, ça s'arrête à peu près là.
À peu près ça, d'accord.
Après, nous, on accompagne pas mal d'investisseurs. Là, c'est différent. Ou de propriétaires occupants. Et là, c'est, qu'est-ce que je dois faire ? En fait, la question, c'est qu'est-ce que je dois faire ?
C'est clair.
Et donc là, soit on fait travailler des gens comme Axéo, qui est, on fait un audit, et après, on voit ce qu'on fait faire. Le grand piège serait de dire, et c'est la vertu de ce décret, serait de se dire, j'ai des règles à suivre, je les suis, et après, je suis bon. Non. Ce décret est souple, au sens où il dit, on doit atteindre ça. Maintenant, débrouillez-vous. Ce qui évite des trucs collés et absurdes, mais ce qui oblige à réfléchir.
Est-ce qu'il y a des sanctions coercitives ?
Non.
En cas de non-respect ?
Non.
Il n'y en a pas un ?
Non.
Donc en fait, celui qui ne fait pas et qui se dit...
Celui qui ne fait pas, il n'existe déjà pas trop sur les bâtiments neufs.
Oui, par contre, c'est vrai. Oui.
Parce que sinon, il n'y a pas son PC.
Aujourd'hui,
permis
ça.
De construire. C'est terriblement efficace, ce que vous dites.
Voilà. Donc après, la question, ça va être sur les bâtiments existants, qui peut être quand même, on en parlait, qui peut être quand même le point difficile pour certains bâtiments.
C'est même le point difficile. Voilà. Si on y réfléchit bien.
Là, il n'y a pas grand-chose de prévu. Donc oui, tant que vous faites pas de travaux, que vous êtes chez vous, si vous faites rien, il se passe rien. Mais ça serait dommage parce que vous parliez du décret tertiaire. Bizarrement, ces deux décrets n'ont pas été mis en même temps, ne sont pas liés formellement.
Pourquoi vous dites bizarrement ? Ça m'intéresse beaucoup.
Parce qu'en fait, ils sont complètement indépendants. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans le temps un peu en même temps, mais ils sont pas écrits. Il n'y a pas de lien juridique entre les deux.
Et pourtant, on pense au décret tertiaire quand on imagine.
Oui,
C'est clair.
Mais parce que,
et en l'un fait, a précédé l'autre, d'ailleurs.
Oui, ah mais oui. Parce que finalement, le décret BACS est là pour permettre, à mon sens, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'atteindre le décret
le
tertiaire.
Le pro que vous êtes, alors vous êtes un expert, vous conseillez des investisseurs, vous conseillez des propriétaires occupants, des locataires, enfin, vous êtes sur plein mal de lignes métiers, vous en pensez quoi, vous, c'était nécessaire de sortir ça ou pas? Non, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue.
Oui, non, mais la question est judicieuse.
Alors, il n'y a pas photo, on est d'accord, on va tout se faire. Hein. D'ailleurs, heureusement qu'on a accès haut pour ça. Mais vous en pensez quoi? Il fallait? Ou c'est une norme qui se rajoute à la norme, qui s'était déjà rajoutée à la norme?
Je pense que c'est une bonne chose au sens où ça oriente correctement les gens. C'est-à-dire que sans avoir fait ça, peut-être que le décret tertiaire, certains seraient engouffrés dans des travaux pas possibles. À qui on aurait fait croire qu'il fallait refaire leur immeuble complètement pour engendrer la moindre économie. Donc j'y vois cette vertu-là. C'est qu'au moins, ça met en lumière le premier moyen d'économiser, qui est de piloter sa consommation. Aujourd'hui...
Mais est-ce que ça vous aide, vous le pro? Parce que vous êtes un professionnel. Vous savez conduire, effectivement, les transformations des bâtiments. Est-ce que vous, ça vous sert objectivement, concrètement?
De façon cynique, oui, parce que comme ça, on nous appelle.
Alors, pour revenir plus souvent, Michel.
Non, mais oui, dans les faits, non,
on est d'accord, ouais.
Dans un monde idéal avec des pros qui connaissent tout, oui, c'est pas nécessaire.
Merci, Michel. Alors, Emmanuel, t'as remarqué que j'ai quand même gardé pour la fin, pour l'explication. Le BACS, donc on peut comprendre en fait l'intérêt de piloter avec des outils extrêmement précis. Viser l'exhaustivité, c'est peut-être un rêve, mais en tout cas, on s'approche de plus en plus de cela. La conscience, de toute façon, elle est là. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Michel. Effectivement, on vous appelle, donc on a des clients. Aujourd'hui, il n'y a plus photo. En termes de RSE, en termes de normes, aujourd'hui... Toutes les grandes entreprises se mettent sur ce genre de sujet, donc il n'y a plus de débat, on va faire, bien évidemment. Mais la réflexion du BACS, Emmanuel, votre point de vue?
Alors, je fais une petite parenthèse. À l'issue du Covid, alors que j'étais président de la SBA, Smart Building Alliance for Smart Cities, j'ai pris l'initiative d'écrire un courrier aux deux ministres à la fois de la ville, enfin de Julien de Normandie. Hein, donc c'est pas uniquement la ville, mais c'était bâtiment et ville, enfin cohésion des territoires.
Oui, et ben, c'était Jacques Mézard à l'époque qui était aux affaires.
Et Julien Normandie était en charge de toute la
partie bâtiment. Et qui a laissé son portefeuille à Barbara Pompili.
Voilà. Mais à l'époque, c'était donc...
Et de normes, sur Sarbonne, à loin.
Oui, oui. Et ministre de l'écologie. Donc,
il y en a eu
l'époque,
quatre
entre-temps. C'était Emmanuel Wargon, si je me souviens bien.
Oui.
Donc on a écrit...
À l'aménagement du territoire.
Alors on a écrit une lettre en leur disant, écoutez, là, pendant la période du Covid, des quartiers d'affaires comme la Défense, on a bien vu qu'ils ont consommé autant d'énergie vide que plein. Oui. Donc il y a un vrai souci. Et donc là, on vous enjoint, on veut une démarche gouvernementale pour encourager la mise en place d'une infrastructure numérique dans tous les bâtiments en France, pour, en même temps, c'est Emmanuel Macron qui dit en même temps, mais pour en même temps porter dans chaque bâtiment l'efficacité énergétique qui va permettre de réduire la consommation énergétique. Et cet investissement d'efficacité énergétique plus l'infrastructure numérique va permettre effectivement de réagir, de résoudre ces problèmes, mais surtout les économies dégagées par l'efficacité énergétique vont financer l'investissement de cette infrastructure numérique qui, elle, va être utile pour d'autres services comme la gestion des espaces, comme la gestion de la qualité de vie au travail, comme la sécurité, comme le pilotage des ascenseurs, etc., etc.
Ça a du sens, oui. C'est bien.
Ça avait du sens.
Ça plaît beaucoup, oui. C'est sûr. Dit comme ça, on peut que souscrire.
Et aujourd'hui, je reste sur cette position. Par contre, ça a été détourné. Je ne dirai pas par qui ou par quoi. Entre-temps, j'ai quitté la présidence de la Smart Building Alliance pour cette raison.
D'accord.
Parce qu'effectivement, ça a été détourné.
Est-ce que c'est ça
un lobby de certains acteurs de l'automatisation du bâtiment qui ont préféré porter avant tout des automatismes du bâtiment pour répondre à cette problématique et y adjoindre une dose de numérique.
D'accord.
Et c'est là où, effectivement, je reviens aujourd'hui en disant le résultat, bah, c'est qu'on a fait un décret BAX qui est incomplet. La décision est bonne. Dans donc, le sens
pour vous, le fond...
Le fond est bon, puisqu'on va...
Parce que comme ça, ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens. Ah, oui. Mais la manière dont c'est porté n'est pas bonne. Et cette manière, excusez-moi, c'est la manière qu'on porte en France le numérique depuis son début. Et c'est une ineptie. On a demandé à EDF, à GDF, à Veolia de mettre des compteurs communicants. Pareil. On a multiplié par 3 les infrastructures numériques dans les bâtiments, alors que si on avait une infrastructure déjà unique, comme ça se fait par exemple aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, sur lequel des compteurs viennent se raccorder avec une gestion des données locales, ça coûterait beaucoup moins cher. Et au-delà de ça, maintenant, c'est les ascenseurs, ouais. C'est l'efficacité énergétique, c'est l'assistance aux personnes dépendantes.
Mathieu, une réflexion. C'est intéressant.
Le point de vue, effectivement, est très intéressant. Bon, après, en France,
Vous, l'expert que vous êtes, est-ce que ce décret, il est encore à peaufiner? Il vous paraît un...
Il pourrait être amélioré, mais comme c'est le cas pour le décret tertiaire, qui, base, est une très bonne idée, mais qui, aujourd'hui, est encore, malheureusement, incomplet. Ça change pas mal. On y revient dessus. Encore récemment, il y a eu des modifications avec une extension sur les choix d'années de référence et autres. Donc, je suis d'accord, il y a beaucoup de lobbying derrière.
Est-ce qu'il y a des aides?
Et malheureusement, c'est quand même ça qui finalement fait modifier. Et là où l'idée est excellente au départ, souvent elle est un petit peu transformée et adaptée en fonction pour faire travailler.
Alors, est-ce qu'il y a des aides spécifiques prévues?
Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, les aides les plus intéressantes, et les seules d'ailleurs, ce sont les certificats d'économie d'énergie. D'ailleurs, il y a un petit bonus qui, je crois, court jusqu'à juin 2024, qui permet de multiplier par 2 si on part sur une installation complètement neuve, donc au niveau des GTB, GTC.
Et alors GTB.
Alors GTB, gestion technique des bâtiments, GTC, gestion technique centralisée. Effectivement. Et donc il y a des petits bonus de certificats d'économie d'énergie qui viennent s'ajouter.
Et qui permettent à l'entreprise de financer.
Et qui permettent effectivement de financer. Aujourd'hui, c'est le plus gros levier et ça peut être relativement important. Et toujours pareil, il y a quand même une norme à respecter pour pouvoir bénéficier de ces CDE. Alors, je suis désolé, c'est la NF, j'ai plus exactement le chiffre en tête.
On peut avoir un chiffre en tête, par exemple, sur une base 100, les économies d'énergie, les CDE, ça peut financer quoi, 10, 15, 20%, voire plus peut-être?
Alors ça, c'est difficile parce que vraiment, ça dépendra de quel type de système.
C'est très spécifique en fait.
C'est très spécifique, donc c'est un peu compliqué à pouvoir l'estimer comme ça. Non, par contre, ce qu'on peut estimer, c'est le gain énergétique que ça va permettre d'obtenir, où là, par exemple, sur une gestion technique centralisée qui existe déjà, on va pouvoir viser, lorsqu'on l'améliore, lorsqu'on la complète, à faire 15% d'économie d'énergie. Et alors, quand on part de zéro, on peut viser jusqu'à 40% d'économie d'énergie dans certains bâtiments. Encore une fois, ça dépend aussi comment étaient gérés les bâtiments. Mais je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, puisque nous, on l'a constaté aussi, pendant le Covid, les consommations énergétiques de certains bâtiments ont même été supérieures. Moi, je l'ai vu sur certains bâtiments de la Défense, puisqu'on a audité certains bâtiments de la Défense dans ce cadre-là. Et effectivement, c'est pas normal.
Michel, ça, c'est l'aberration.
Et moi, sur ces bâtiments de la Défense, j'entends le raisonnement, mais là où j'étais surpris, c'est que tous ces bâtiments, ils sont déjà équipés de GTB, GTB, GTC.
Donc, c'était un choix.
Donc la question, c'est plutôt, le décret en parle, mais c'est pas lui qui va tout transformer, c'est qui pilote.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est qui pilote? Parce que ça paraît, pour un néophyte, ahurissant qu'un bâtiment consomme autant vide qu'occupé.
Alors, on était dans un contexte particulier de Covid, et effectivement, le choix avait été fait par beaucoup de mettre les centrales de traitement de l'air en 100% tout air neuf, de pas faire de recyclage comme on a l'habitude de le faire pour finalement faire des économies d'énergie.
Donc c'est aussi. Et ça a servi à quoi tout ça?
Pas à grand chose, puisque les plateaux étaient vides, on l'a constaté. En fait, au lieu d'avoir un système qui permet de le faire plateau, parce qu'il y avait certaines parties de plateaux occupées, donc au lieu de se concentrer uniquement sur les plateaux qui étaient occupés à l'époque, ils le faisaient sur la totalité de bâtiments qui font 60, 70, 100 000 mètres carrés. Et c'est là où, effectivement, quand on n'a pas tous les apports humains qui participent finalement à chauffer le bâtiment, donc nous, l'éclairage, l'usage informatique au quotidien, finalement, on s'est retrouvé avec une consommation équivalente, voire une surconsommation.
C'est ce qui s'est passé.
Oui.
Mais alors justement, j'ai lu votre article, dans votre article vous écrivez que la propriété de la donnée, la gouvernance de la donnée, d'ailleurs vous avez créé Data Governance, c'est un rapport. En quoi le décret peut provoquer en fait des problématiques sur la propriété de la donnée?
Alors,
parce que ce que vous soulevez, Emmanuel François, en sous-jacent, on va faire une toute petite aparté sur le sujet parce que c'est extrêmement parlant et je sais que ça vous intéresse énormément, c'est la souveraineté numérique.
Tout à fait.
Les problématiques de souveraineté. On n'en est pas là.
Non, on n'en est pas là. Tout d'abord, je suis pas avocat, mais dans l'organisation de la DGFORSC, il y a des avocats. Et clairement, ils disent tous, la notion de propriété de la donnée n'existe pas dans le droit. Ce n'est pas une notion. Donc déjà, là, un décret de loi qui parle de propriété de la donnée, alors que la notion de propriété de la donnée n'existe pas.
Juridiquement, il n'y a pas...
Non, notion de propriété d'une base de données.
D'accord.
Mais une donnée, c'est une information. Ben, votre information, elle est libre. Heureusement, on est dans un pays démocratique. Voilà. Il ne faut pas confondre une chose qui émet une information et l'information. Donc, effectivement, je dis n'importe quoi, un acteur X peut être propriétaire d'une chose, un capteur, mais l'information qui vient de ce capteur n'est pas liée à la chose, c'est une information. Et c'est ça qui est... Et donc là, il y a une confusion entre la chose et l'information qui est émise de la chose. Et c'est fondamental. Donc c'est un problème de droit. Ensuite, il y a un problème de constitutionnalité. En aucun cas, une proposition de loi ne peut définir la notion de propriété. C'est anticonstitutionnel. Donc là, deuxième erreur.
Oui, mais alors à ce moment-là...
Donc ce décret, en fait, quelque part, il est frappé de nullité.
Sur les deux mandats d'Emmanuel Macron, sur le quatrième gouvernement et le cinquième ministère du logement, là, du coup, ils ont cumulé quand même.
Ils ont cumulé, oui. Et troisième élément, il faut savoir que depuis l'apparition de ce décret, il y a le Data Act qui a été promulgué en novembre 2023 et qui sera effectif dans à peu près 16 mois.
C'est quoi le Data Act ?
Eh bien, le Data Act, c'est un décret européen qui vise à créer une économie autour de l'usage de la donnée et donc d'aller vers le partage de la donnée, et non pas vers une propriété de la donnée. De toute façon, il ne peut pas définir une propriété de la donnée, mais de dire que la donnée doit être partagée.
Donc,
la donnée dans les bâtiments, notamment, doit être partagée. Donc, en fait, ce que je dis là, c'est
que... D'un point de vue intellectuel, c'est une imposture libérale que de penser que la propriété de la donnée est un concept en soi.
Exactement. Et c'est essentiel.
Intéressant, ce que vous dites.
C'est essentiel. Et puis, parallèlement... Si vous voulez, au-delà de ce débat juridique qui est important, je pose la question tout de suite, à qui profite le crime ? Parce que forcément, il y a quelques acteurs qui ont essayé d'introduire cette notion de propriété de la donnée. En fait, c'est écrit dans l'article, les propriétaires des systèmes sont propriétaires de la donnée des systèmes. Voilà. Et donc, les propriétaires des systèmes,
ça veut dire
donc
qu'une société,
peut être...
dans le décret, une SS2I par exemple, ou une société qui gère X ou Y bâtiment, finalement possède et propriétaire, et pas l'utilisateur ou le propriétaire.
Oui, non, c'est pour ça, si vous voulez, c'est...
On peut nous éclairer là-dessus
un point de vue. Non, mais un moi, point de vue. J'ai moins de...
Michel, sur... non, mais plutôt
si
Michel...
La notion, je pense qu'au départ, je serais moins dur que vous. Je pense qu'au départ, la volonté était bonne, était de se dire il ne faut pas que la donnée soit la propriété de l'exploitant si l'exploitant change.
On est d'accord.
Au départ.
Oui.
Après, ça a été mal écrit, ça, c'est possible.
D'accord.
Après, rien n'empêche, en revanche, de contourner et de se dire moi, je suis à la fois exploitant et je vous installe le système, cadeau. Et sauf qu'une fois que vous avez offert ce magnifique cadeau que j'ai installé un système, j'ai vos données aussi, et là, je ne peux plus partir. Donc, effectivement... Il y a un piège, ça partait d'une bonne intention qui était de dire, je pense que dans l'idée du rédacteur, c'était de se dire, le propriétaire de l'immeuble, propriétaire du système, a les données, comme ça on assure une continuité.
Bah oui.
Je pense que l'idée est de base.
Parce que la société qui posséderait éventuellement le savoir-faire, ou détenir finalement la techno en fonction, serait... prendrait quelque part en otage le client, quelque part, en disant, voilà...
On peut décorréler la propriété du système et la propriété de
s'assurer du business, d'avoir une trajectoire de revenus récurrent.
Malheureusement, c'est possible.
Ah, bien sûr.
Mais oui,
bien entendu, c'est là où c'est vicieux.
Moi, je suis propriétaire, je pense à ça tout de suite.
C'est qu'effectivement, là où il y a un peu de vice, c'est qu'effectivement, de bâtir un revenu récurrent sur la base des données qu'on collecte.
Et après, enfin,
mais bon, c'est pas l'objet, mais ce que je veux souligner, moi, surtout...
Ce décret, il n'a pas été rédigé sous la plume des sociétés qui font des automatismes ou qui
on n'est pas là pour polémiquer, parce que ça, c'est pas l'objet, je pense. Mais par contre, au-delà de ce sujet juridique, et on voit bien ces incertitudes, moi, je soulève, je fais en fait le boomerang. Je renvoie la balle à ceux qui ont... mis cet amendement, c'est qu'à partir du moment où on accepterait, parce qu'on accepte, on peut pas accepter, mais on accepterait cette notion de propriété de la donnée, bah, il faut assumer les responsabilités, et notamment les responsabilités en termes de cybersécurité. C'est donc retour à l'envoyeur. Ça veut dire que, ok, vous êtes responsable, vous êtes propriétaire des données, vous, je sais pas moi, vous foncière ou vous fabricant de systèmes d'automatisme, eh bien, si demain, il y a une attaque, une cyberattaque ou une défaillance ou un piratage des données à la fois du bâtiment ou personnel, vous êtes responsable. Et maintenant, j'aimerais bien connaître la réaction de ces personnes-là. Je pense que dans ces cas-là, ils vont être s'empresser de demander une réécriture.
D'accord, ce sont les entreprises qui opèrent qui seront responsables de ça.
On a eu une attaque. Celles qui sont entreprises qui sont qui seraient propriétaires.
On a eu une menace.
Propriété, hein. Propriété, c'est responsable.
Sur l'immeuble ici, on a eu une menace ici de piratage informatique auquel on a échappé, heureusement. Une réflexion justement là-dessus. Aujourd'hui, les questions principales des maîtres d'ouvrage, elles sont posées comment, finalement?
Alors, c'est vrai qu'à la lumière de ce qu'on pourrait dire, la première question pourrait être qui est propriétaire des données ou qui doit la garder. Et effectivement, ça peut être un point d'intention à faire attention à qui on est l'exploitant et comment le transfert de la base de données.
Qui a l'usage?
Voilà, qui a l'usage.
Parce que propriété, ça n'existe pas.
Mais voilà, qui a l'usage. Donc,
c'est quoi la position de Colliers aujourd'hui là-dessus?
Nous, là-dessus, j'avoue que je ne m'étais pas trop posé cette question avant d'arriver.
Non, mais ça va créer.
Plus, c'est vrai.
Mais au moins, ça donne sans doute un point d'attention qui est faites bien attention quand vous signez votre contrat. Mais nous, les questions qu'on a des maîtres d'ouvrage, c'est d'abord, j'ai déjà une GTB, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça va être rentable? Toute cette histoire.
Bah oui, bien sûr.
Globalement, une fois qu'on a traité ces deux questions, on a à peu près tout traité.
Bien sûr.
Et évidemment. Sur la première question, pourquoi j'ai besoin? On ne sait pas si vous avez besoin. Donc la première réponse est allons regarder, faisons un audit, vérifions ce que vous avez aujourd'hui. C'est sûr que votre bâtiment date de 2015. Après la fameuse RT 2012, etc. Il y a de fortes chances qu'il fasse déjà l'affaire. Et donc il y a peut-être rien à faire. En revanche, votre immeuble il est de 98. Il y a déjà une GTB, on a dit tout à l'heure ce que c'était, voire une GTC, ce qui est la version un peu plus simple. Les capteurs, il n'y en a plus de compatibles. Les technologies de transport d'informations, il n'y en a plus de compatibles. Oui, là, il faudra tout refaire.
Il faudra tout refaire et réinvestir.
Oui.
C'est lourd.
Ah. On en parlait, on essayait de voir.
C'est des dizaines de milliers d'euros, c'est des centaines de milliers d'euros.
Ça peut aller. Même
ça dépend de la taille de l'immeuble, bien évidemment.
En fait, ça dépend de la taille, ça dépend du système.
Donc ça va de milliers d'euros à des millions d'euros.
Ça peut.
Oui,
c'est ça.
Globalement, on était en train de se dire que sur des immeubles de bureaux, parce qu'après, quand vous allez sur des immeubles plus complexes, vous allez en rajouter. Ouais. Donc je parle de l'immeuble du bureau, que je connais mieux. En base, dès que vous avez un certain taille, c'est 30 euros du mètre carré.
Ça tombe bien. J'ai inauguré un immeuble qui a été développé en mixité d'usage hier au 53 avenue Jean Jaurès, pardon, qui s'appelle le Mermoz, détenu par Périal, par une SCPI. Effectivement, qui est un bâtiment dans lequel tout a été organisé en fonction. Et là, ça a coûté très très cher. Donc c'est sûr que la réflexion du propriétaire, c'est l'amortissement, c'est comment, c'est comment je l'amortis, sur quelle durée.
Alors ça, c'est...
Est-ce que ça crée de la valeur? Alors, prenons le côté économique, c'est créateur de valeur ça ou pas?
Alors déjà, juste pour répondre à la question, donc le 30-60 euros du mètre carré, sur le retour d'investissement, heureusement dans le décret ça a été quand même pris en compte, c'est-à-dire que si vraiment la dépense est absurde, vous pouvez ne pas la faire.
Ça, d'accord.
Il y a un garde-fou là-dessus.
Mais c'est quoi le curseur? Comment on sait que c'est absurde?
Ça a été défini. Alors, c'est une norme. Après, on a le droit de faire des calculs plus détaillés et ça vaut sans doute le coup. L'idée, c'est qu'on a un retour sur l'investissement de moins de 10 ans.
C'est ça. Tout à fait. Oui, effectivement, il y a un calcul de temps de retour sur investissement qui a été bien défini, qui d'ailleurs, c'est l'un des seuls décrets où on doit se baser sur des devis des entreprises lorsqu'on souhaite faire ce calcul de temps de retour sur investissement.
D'accord.
Voilà, donc ça a été... C'est le bienvenu parce que, je rejoins, c'est difficile d'estimer le coût, que ce soit en rénovation ou en installation de BACS. C'est tellement variable en fonction de la classe de BACS aussi qu'on va installer, puisqu'il en existe, beaucoup. Voilà, et donc effectivement, ce temps de retour sur investissement, dès lors qu'il est supérieur à 10 ans, ça permet effectivement d'être exempt de cette réglementation. Et c'est là où ça corrèle un petit peu également avec le décret tertiaire, puisque finalement, dans le cadre du décret tertiaire, on sait qu'on a cette fameuse partie sur la modulation des différents objectifs. Et donc, en fait, on a la possibilité de moduler également via ce temps de retour sur investissement qui serait trop élevé pour finalement venir alléger les objectifs. Et effectivement, pour calculer, pour prendre en compte le gain énergétique, donc pour calculer ce temps de retour sur investissement, soit on a le décret en fait permet de prendre automatiquement 15% d'économie en base, ou alors effectivement on a le droit de faire ce qu'on appelle donc une étude énergétique par simulation thermique dynamique et de prendre en compte le gain estimé par cette simulation pour faire le calcul de temps de retour sur investissement.
On dispose donc des outils aujourd'hui qui permettent d'arriver à cet objectif, quoi. 10 ans, c'est une bonne moyenne d'amortissement.
Oui, après, là où je pense qu'il faudrait éviter, c'est de ne faire que le BACS.
C'est ça.
Développer.
Bah, nous, les clients qu'on accompagne, on essaye plutôt d'envisager l'immeuble dans son ensemble.
Bien sûr.
Dans le lien avec le décret tertiaire. Et comme je le disais un peu au début, le BACS est un moyen comme un autre.
Comment mettre en œuvre les deux, justement ? Comment vous articulez ces...
Bah, c'est une vision, c'est une vision globale, en fait.
Nous, l'idée, c'est de... À quoi sert votre bâtiment ? À quoi il va servir ? Enfin, c'est absurde, mais si l'immeuble ne doit plus servir dans 6 ans, bah, ne faisons rien. Hein. Non, mais...
Oui, non,
mais... Si aujourd'hui, c'est un immeuble de bureau dans une seconde couronne assez difficile à louer, dont il y a 3 chances sur 10 qu'il soit
logement,
reconverti en logement dans 5 ans. Donc, il y a une première analyse qui est à faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi on le fait ? Et ensuite, quels sont les moyens que j'ai pour améliorer mon immeuble ? Et si je restructure l'immeuble, bien évidemment, je vais refaire toute ma GTB, donc toute ma BACS.
Très juste.
Voilà, la vision qu'on a, c'est plus, c'est une brique.
C'est extrêmement pragmatique.
D'un ensemble, oui.
Emmanuel ?
Simplement... Tu posais la question du ROI.
Oui, voilà, ROI et combiner les deux.
Si tu veux, moi, je ne peux pas dissocier le ROI, justement, de la gouvernance des données et d'avoir accès à ces données. Parce qu'en fait, elles ont de la valeur, ces données. Et je donne un exemple qui est vraiment lié au décret BACS et à la flexibilité énergétique. Il faut savoir que le décret BACS, c'est donc justement apporter cette économie d'énergie. Voilà. Mais c'est aussi permettre d'apporter de la flexibilité énergétique en cas de pointe de consommation. Et c'est là où c'est intéressant. On pourrait en discuter avec les responsables de la CRE, ils vous diront, là, le décret BACS est utile. Parce qu'effectivement, en cas de pointe de consommation, on va pouvoir baisser la consommation des bâtiments tertiaires, par exemple de 10%, et nous éviter de démarrer 2-3 centrales à charbon, par exemple. Mmh. Alors, il faut savoir que la consommation énergétique des bâtiments tertiaires représente un tiers de la consommation énergétique en France, dans les bâtiments, un tiers.
Les bâtiments tertiaires.
Exactement. En période de pointe, c'est
énorme.
Un tiers. C'est énorme. Donc effectivement, mais c'est pour ça qu'il faut le relier à la flexibilité. Et alors on va me dire, c'est quoi l'histoire du ROI ? Ben, la flexibilité. Il y a des énergéticiens qui sont intéressés à acheter cet effacement énergétique, cette flexibilité énergétique. Ça a énormément de valeur parce qu'en fait, on peut avoir un delta de prix de l'énergie de 10, voire beaucoup plus.
Ah oui, quand même.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y aurait une substitution, finalement, d'opérateurs qui achèteraient.
Exactement.
Est-ce qu'ils iraient jusqu'à financer
les travaux ? Regardez, vous tapez, effacement énergétique ou flexible effacement énergétique sur Internet, vous allez voir, ça pousse comme des champignons.
Est-ce qu'ils iraient jusqu'à financer les travaux en
échange
d'une délégation ?
Je vous donne un exemple. Je donne pas
comme
de nom.
Comme par exemple les grandes surfaces logistiques qui ont donné à bail leur toit à des entreprises qui ont des centrales de photovoltaïque. Hein, d'accord là-dessus.
Je ne donne pas de nom à l'antenne, mais je connais une société qui fait de la flexibilité énergétique dans le tertiaire. C'est 1 euro par mètre carré par an. Donc, ils payent 1 euro par mètre carré par an. Donc, imaginez, je ne sais pas moi, une grande enseigne de supermarché. Là, on parle de
de dizaines de millions d'euros.
C'est clair.
Voilà. C'est et simplement clair. Parce que je vous confie mes données pour que vous apportiez cette flexibilité énergétique. Et en cas de pointe de consommation, je vais baisser de 1 degré la température dans vos supermarchés, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est pas n'importe quoi d'ailleurs. Mais voilà, donc ça permet de... Voilà. Mais dans les bâtiments tertiaires. Et ce que je dis ici à l'antenne sur Radio Immo, c'est que ces données, il faut justement que les propriétaires, les clients de Colliers les gardent et valorisent cette donnée énergétique et appliquent eux-mêmes la flexibilité énergétique. Idem pour les bâtiments publics, idem pour les collectivités. Aujourd'hui, les maires disent on n'a plus de budget. Mais purée, ils ont des bâtiments publics. Eh bien, vous, les maires, gardez ces données et c'est vous qui allez gérer cette flexibilité énergétique, qui allez négocier avec les énergéticiens en leur disant... Nous, on va s'engager à baisser la consommation énergétique dans nos bâtiments.
Mais c'est ce qu'ils font.
Et vous allez nous payer.
Mais c'est ce qu'ils font.
Eh ben non, aujourd'hui, ils confient.
Si.
Je vous donne un exemple.
Moi, j'ai l'exemple de Laval. Donc,
non, mais la plupart aujourd'hui, ils vont confier.
Ils le confient.
Ils le confient à un énergéticien qui va le faire pour eux ou à un tiers.
Parce qu'ils
ne
savent pas le faire.
Je vous donne un exemple. Alors, écoutez, je ne donne pas le nom, mais la métropole de Lyon, alors ce n'est pas le tertiaire, mais la métropole de Lyon a confié. A fait la promotion d'un système d'effacement énergétique, de flexibilité énergétique, à tous les Lyonnais, donc aux millions. Voilà. En contrepartie, cette société, elle apporte gratuitement des objets connectés dans les bâtiments pour apporter cette flexibilité énergétique.
Vous connaissez ça?
Donne pas
Mathieu.
De nom.
Non, mais sans donner de nom.
Non, enfin non, je j'étais pas au courant, ouais, mais c'est très intéressant. Je m'en suis
dit. Et là, moi, je pose la question. Je pose la question à Laurent Bernard.
Non, mais je ne savais pas quand on avait le mot effacement énergétique.
Oui, c'est...
Vous connaissiez, Michel?
Ah oui.
Ah bah moi.
En anglais, c'est plus connu, c'est demand response.
Mais c'est vrai que c'est plus connu en industrie.
Voilà. D'accord. En industrie.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très très classique.
Alors.
D'accord, je connais moins.
Nous avons des questions des auditeurs, justement, là-dessus, puisqu'il nous reste 5 bonnes minutes. On va prendre un peu plus de temps que prévu, mais on va répondre à toutes vos questions. Elles sont nombreuses. La séquence réponse aux auditeurs, c'est tout de suite.
Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond.
Alors, on nous a posé... Alors, a-t-on... Vous me dites qui veut répondre. A-t-on une estimation moyenne des gains produits par les BACS ou des systèmes de GTB?
Alors,
qui s'y colle?
Je m'y colle. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu juste avant. Donc, on peut être entre 15% lorsqu'on a déjà en place des systèmes BACS.
Ouais, hein.
Voilà, donc c'est déjà pas mal. Alors, ça reste des estimations. Hein. Ça dépend vraiment, on va dire, la typologie d'activité aussi qu'on a au sein des bâtiments. Et puis, lorsque c'est vraiment de la création où on part de zéro, alors, c'est difficile. Ça représente un investissement non négligeable, surtout quand on est dans l'investissement. Mais là, effectivement, on a vu des bâtiments qui pouvaient atteindre 30 à 40% d'économie d'énergie parce qu'il n'y avait aucune gestion dans ces bâtiments-là, que ce soit au niveau des températures et des usages en règle générale.
Ok, donc il n'y a pas photo. Michel,
pourquoi compléter juste, et là, c'est pas le décret BACS qui fera tout, pour peu qu'on pilote derrière. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le meilleur outil qui soit, s'il n'y a personne qui sait s'en servir, si au bout de 3 ans il est mort, ça sert à rien. Donc il ne faut pas oublier non plus qu'une fois qu'il est installé, il faut avoir quelqu'un pour le gérer, s'en occuper. Et d'ailleurs, le décret prévoit une maintenance, une vérification, mais bon, tous les 5 ans. Donc je pense qu'il faut
cette
aller au-delà.
Cette maintenance, qu'il a fait? C'est l'entreprise elle-même qui gère son propriétaire.
Ça peut être d'avoir un contrôle par l'installateur, ça peut être bien parce qu'au moins ça fait un tiers par rapport à l'exploitant.
D'accord.
Donc au courant, c'est l'exploitant, mais encore faut-il que l'exploitant soit formé pour ça.
Juste, j'attire l'attention des auditeurs. C'est vrai qu'il faut une maintenance, mais il faut quelqu'un en permanence qui puisse effectivement ajuster en fonction des usages, en fonction de la météo, en fonction de tas de choses. Et là, je pose la question. Dans un lycée, par exemple, ou un bâtiment public.
Qui va le faire?
Est-ce qu'il y a une personne dédiée? Oui ou non? Bah non. C'est pas le proviseur qui va aller tourner les manettes, non. Qui va aller qui va aller sur la GTB. C'est ça le sujet. Hein.
Alors justement,
c'est d'avoir des gens qui pilotent.
Intéressant parce que ça devance.
Après,
on nous pose une question. Y a-t-il des coûts annexes à prévoir? Donc c'est très précis. Études préalables de maintenance et des contrôles périodiques.
Alors oui, donc il y a des contrôles périodiques qui sont prévus dans le cadre du décret BACS. Donc,
les combien,
de base, ce sera tous les 5 ans. Ça, c'est la base obligatoire. Et puis, dès lors qu'on remplacera des systèmes qui sont connectés à ces BACS ou qu'on fera évoluer les BACS eux-mêmes, ce sera tous les 2 ans. Ça sera ramené à 2 ans. Donc effectivement, il y aura un contrôle continu à faire. Et donc, un rapport à établir qui est d'ailleurs assez quand même bien détaillé en annexe du décret, dans lequel il est quand même relativement précisé tout ce qu'il devra contenir.
Donc 2 ans au mieux et à minima tous les 5 ans.
C'est le
principe. On nous pose une question, est-ce que c'est envisageable partout, dans toutes les situations, et surtout, on a dit combien ça coûte. Mais là, combien ça coûte, on l'a dit, hein, ça va de... Donc envisageable partout, hein, Michel Danis ?
Bonne question. Tout ce qui est bureau, oui. Là où ça se complique, c'est sur des immeubles compliqués. Il y a tout l'enseignement, vous parliez des lycées, là où effectivement on part de rien. Après, la vertu quand même du décret, c'est qu'il n'impose pas des solutions techniques. Donc on peut aussi avoir des solutions un peu light qui font quand même le boulot. C'est-à-dire que il faut pas vouloir la perfection. Il faut une approche pragmatique.
Ouais, et puis une approche qui optimise entre l'existant et ce que ça va devenir, même si
c'est
pas
parfait. Vous avez beaucoup de l'essai ou l'existant, c'est à peu près
d'accord.
Quelqu'un qui va aller manipuler la chaudière.
C'est très clair. j'ai encore une question. Que se passe-t-il si l'installation est trop compliquée ou trop chère ?
Alors, trop cher, on l'a dit, hein, ça peut permettre de déroger au décret, effectivement. Après, trop compliqué, il y a des systèmes qui sont très compliqués, mais aujourd'hui, pratiquement rien n'est infaisable. C'est vrai qu'on peut pratiquement envisager de le mettre partout, ça reste une question de coût. Après, il y aura effectivement des bâtiments, tout ce qui est le secteur de la santé, notamment, dans lesquels, alors, ces établissements étaient pour beaucoup déjà pourvus de systèmes comme cela, mais malheureusement, ils ont été laissés à l'abandon, et aujourd'hui, effectivement, je rejoins sur la précédente question, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des gens qui sachent piloter ces systèmes-là. On le voit même sur des bâtiments très récents, dans lesquels des Rolls-Royce ont été installés, concrètement, qui sont éteintes, parce que les gens ne savent tout simplement pas s'en servir.
C'est des millions
d'euros qui ont été mis dans ces systèmes-là.
C'est possible, ça, Michel.
Malheureusement, on le voit peut-être pas tous les jours, mais...
Sans compter,
vous arrivez, j'ai une anecdote assez amusante là-dessus, où vous arrivez et on voulait faire un bilan, et donc on a demandé, donnez-nous les consommations, il y avait une belle GTB, etc. Ça s'est fini par une photo des copies d'écran parce qu'ils ne savaient pas faire sortir la donnée. Donc le technicien a remonté sur son écran et nous on a pris des photos pour avoir les données.
Je confirme, hein, c'est la jeunesse pour laquelle j'ai... fondé la Smart Building Alliance. J'avais rencontré le conseil général d'Île-de-France qui m'a dit écoute, nous, on a décidé de déconnecter les GTB dans les lycées, etc. Parce qu'en fait, personne ne sait s'en servir. Et on préfère le vieux thermostat analogique. Donc c'était dommage. Et je me suis dit, il faut y pallier. Juste, ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait de coût tout à l'heure. Ce coût, il n'est pas complet. Et aujourd'hui, il faut y rajouter, c'est sûr, le coût cyber. C'est juste sûr. Parce que aujourd'hui, on a, je le dis clairement ici à l'antenne, on a quand même une bombe avec ce décret BACS, puisqu'on a connecté des bâtiments alors qu'ils n'étaient pas connectés. On a accès à leur TGBT. Donc on peut, du jour au lendemain, s'il y a une prise de contrôle, les mettre hors tension. Mettre hors tension un bâtiment, OK, ou faire varier la consommation énergétique. Mais si c'est 10% des bâtiments tertiaires, c'est le réseau français, voire européen, qui est planté.
C'est possible ?
Bien sûr.
C'est tout à fait possible.
Je
peux vous dire, et c'est ce que j'avais dit à...
un roman d'espionnage extraordinaire.
Non. Et c'était le discours que j'avais fait à Julien de Normandie quand on avait aussi mis inaugurer le fameux décret, enfin le fameux label R2S en disant... R2S, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Ready to Service. Parce qu'en fait, on va mettre cette infrastructure numérique dans les bâtiments et elle intègre la notion de cybersécurité.
Michel, vous voulez intervenir ?
J'approuvais.
C'est fou, pour moi qui suis plutôt du côté utilisateur, je connais un peu le métier, j'hallucine un peu de parfois... C'est quoi ? C'est pas de l'indifférence ? C'est quoi ? C'est pas de la compétence ? C'est la négligence ?
En théorie, on ne pourrait ne pas être connecté, puisqu'il faut enregistrer. Donc on pourrait avoir un enregistrement local, mais bon.
Oui.
Ça n'existe pas.
On n'a pas conscience
du risque. Et je reviens juste sur la question trop compliquée. Ça, c'est quelque chose à éviter. C'est-à-dire que effectivement, tout l'enjeu quand on choisit un système, c'est d'avoir le système ajusté.
Parce ajusté, c'est-à-dire.
Plus votre système est compliqué, moins vous avez de chances que quelqu'un s'en occupe.
Oui, ajuster, adapter.
J'aime beaucoup l'humour de Michel Dany.
Non, mais donc parfois, nous, on a des clients qui nous disent « Je veux tout observer ». Non.
Non.
Vous observerez rien.
Ok, ouais, c'est écrit. Voilà, il est temps de conclure, justement. Je vais vous laisser la parole à chacun, justement, pour une phrase de conclusion et finir sur une bonne touche. Vous avez compris, les amis, on vous a donné quelques clés de lisibilité du décret BAX, bien évidemment, avec les avantages et les inconvénients. On est tous d'accord sur un point. C'est une très bonne chose, dans une certaine, bien évidemment. Comme toutes les lois ou les décrets sont bien écrits sur le papier, alors sur leur application, c'est plus compliqué. D'où l'intérêt, d'ailleurs, d'utiliser Axéo, par exemple, pour être guidant, parce que là, du coup, quand on est sur des chemins périlleux, autant prendre les professionnels qui vont bien, quoi. On va commencer par vous, Michel. Si je vous demandais, voilà, comme ça, en 3-4 phrases, de dire, voilà, sur point d'accroche, point d'attention, point de vigilance.
Point de vigilance, je pense qu'on les a pas mal vus. Donc je passerai. Point d'accroche, je dirais, c'est une belle opportunité pour se poser, réfléchir et voir un peu sa stratégie de façon plus globale. Un peu comme le décret tertiaire, c'est le moment de se poser, de se dire, savoir ce qu'on fait. Et ça vaut autant pour, on a parlé des investisseurs, des locataires, puisqu'il faut qu'ils discutent entre eux aussi, et toutes les collectivités.
C'est très clair.
Parce qu'elles en ont du bâtiment tertiaire.
C'est très clair. D'où l'intérêt aussi, je précise, entre guillemets, utiliser Axéo comme choisir Colliers pour...
On est complémentaires. C'est-à-dire que nous, on ne va pas du tout faire du diagnostic vraiment donné. On va récupérer ces infos pour les mettre de
Bien
façon
sûr.
Plus globale.
Donc Bien
on
sûr.
Se complète.
C'est très clair. Emmanuel François.
Je vais dans le même sens que Michel Denis.
Danis.
Il faut... prendre ce décret qui est là comme une opportunité, même s'il est, comme j'ai dit, est incomplet, prendre de la hauteur et de ce fait ne pas rester uniquement sur ces automatismes du bâtiment, dire voilà, bon, il faut qu'on mette des automatismes, mais d'abord on met cette fameuse infrastructure numérique qui va nous permettre de raccorder ces automatismes du bâtiment, mais qui va permettre d'apporter X services au bâtiment. La santé, comme j'ai dit, la gestion des espaces, l'optimisation des espaces, donc la réduction de l'empreinte carbone du bâtiment par un meilleur taux d'usage. Et surtout aussi, intégrer ce bâtiment dans son environnement, dans son territoire. On a parlé de flexibilité énergétique, parce qu'effectivement, le bâtiment seul, il consomme de l'énergie, mais c'est parce qu'en fait, il va consommer de l'énergie aussi au niveau du territoire. Et donc, comment, effectivement, on l'intègre complètement dans ce territoire. Donc, c'est changer de modèle et prendre du recul. Voilà, c'est ce que je dirais. Alors, maintenant... certains vont dire ouais mais ça coûte plus cher. Ben non, ça coûtera pas plus cher. C'est simplement qu'il faut avant tout mettre cette infrastructure numérique sécurisée et partir de la donnée. Et ensuite, quels automatismes on met. Et enfin, surtout, le message à chacun, c'est que la donnée est au cœur de cette transition. C'est un actif digital qui est autant important que la pierre et que chaque propriétaire immobilier doit maîtriser.
C'est une économie de la donnée. Intéressant, extrêmement intéressant. Mathieu, pour la conclusion.
Donc comme tout le monde autour de la table, moi je pense que ça reste effectivement une belle opportunité. Il ne faut pas en avoir trop peur. C'est vrai qu'on fait des textes de loi qui sont parfois difficilement compréhensibles. Voilà, je pense que ça s'installe vraiment également dans la démarche liée au décret tertiaire qui quand même vise à la réduction des consommations énergétiques. Par contre, effectivement, il faut prendre du recul dans la globalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur ces BACS. Il faut effectivement raisonner sur des projets beaucoup plus globaux, donc qui touchent tout ce qui est les systèmes CVC, tout ce qui est l'éclairage fin, dans un bâtiment, tout ce qui finalement est consommateur d'énergie. Et surtout, mettre en place ces systèmes, c'est bien, et on en a parlé également, mais derrière, il faudra les piloter et il faudra les exploiter correctement. C'est ça qui va finalement être le nerf de la guerre, puisqu'on l'a dit, on peut mettre en place des choses extraordinaires, mais si demain, on ne pilote pas correctement les bâtiments,
c'est ce que vous disiez,
hein. On n'arrivera pas aux économies
escomptées. Pilotage et ingénierie passe par la formation d'experts.
C'est ça, il faut en fait des gens qui soient formés. Absolument. Ça peut être en interne, on le voit, il y a de plus en plus
Les gestionnaires, les property, les exploitants, il y a, mais c'est aussi une nouvelle forme d'économie et qui crée tout ça, qui crée de la valeur. Merci à tous les trois, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau, extrêmement pragmatique, on en sait plus. Maintenant, en savoir plus, ça ne veut pas dire qu'on va savoir faire demain. Encore faut-il choisir les bons experts et, comme dirait Michel Danis, ne pas aller trop dans la complexité, puisque l'idée, c'est de continuer à l'exploiter, hein, quand même, si j'ai bien compris. Merci à tous. Merci Mathieu Gély. Je rappelle que vous êtes directeur métier génie énergétique pour Axéo. Merci encore une fois, c'est le bon réflexe. Pour justement rappeler que d'ailleurs, vous avez maintenant un terrain de jeu au niveau de l'ensemble de la métropole, hein, partout en France. Hein.
Oui, effectivement, oui. Aujourd'hui, on a 16 agences réparties donc, sur l'ensemble
donc,
de.
Partout où on se trouve, on peut faire appel.
Effectivement, on peut faire appel à nous de partout et avec l'ambition d'ouvrir encore de nouvelles structures. Pour être au plus proche de nos clients, parce qu'on sent bien que voilà, cette proximité a manqué quand même à nos clients en utilisant beaucoup, avec le Covid, les visios et autres, et ils ont envie de contact.
C'est très clair. Merci également à vous, Michel Danis, directeur Real Estate Advisory pour Colliers France. Il faut revenir hein, plus souvent.
Volontiers.
J'aime beaucoup votre humour. C'est très pragmatique. En fait, je vais vous dire, vous avez un langage extrêmement efficace. C'est hyper pragmatique vis-à-vis de vos clients, mais on comprend bien, effectivement, la mission de Colliers. Un grand merci, merci. Alors, vous n'avez pas perdu votre énergie, vous, hein, toujours aussi passionné, parce que je vous ai connu quand vous étiez à la tête de Smart Building Alliance, qui est un collectif industriel très important hein, c'est aujourd'hui. Il en est le fondateur. D'ailleurs, Emmanuel François, et maintenant il est à la tête de Data Governance
Alliance.
C'est-à-dire que maintenant c'est une nouvelle forme d'alliance. Il y avait SBA, et maintenant il y a une alliance pour la gouvernance numérique.
Gouvernance des données. Voilà.
Qu'est-ce qu'on aura maintenant ? On aura bientôt un gouvernement numérique ? C'est ça l'idée ?
Je ne vais pas répondre à cette question, j'ai monté cette association.
C'était pas une question.
Cette association, parce qu'en fait, la gouvernance de la donnée est au cœur de la gouvernance de notre société.
Ça s'appelle une belle conclusion. Merci Emmanuel François. Cette émission, bien évidemment, est à récupérer en podcast, comme d'habitude, pour ce numéro d'avril sur le bâtiment optimisé disponible sur le Radio Immo ainsi que sur les autres applications. Il suffit simplement de taper la requête. On est ravis, en tout cas, d'avoir répondu à vos questions. N'oubliez pas, il y a le forum sur Radio Immo. Vous écrivez vos questions et on vous y répond, comme d'habitude. Et on se retrouve, bien évidemment, au prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous.
Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.